On est le 7 novembre, il est 20h06 et je suis sur mon balcon. Quand j'étais au lycée, comme beaucoup de lycéens et lycéennes, mon temps libre, avec des gros guillemets à libre, était pas mal consacré à l'apprentissage du code de la route et de la conduite. Si vous avez le permis de conduire, et que vous l'avez depuis un petit moment, vous aurez sans doute remarqué que déjà le code de la route, on l'apprend, mais on en oublie une bonne partie. Et surtout quand on apprend à conduire, en fait on n'apprend pas à conduire, on apprend à passer le permis de conduire, on apprend à passer l'examen. Et après on oublie complètement les réflexes qu'on est censé apprendre. Parce qu'en fonction de ce qu'on fait comme trajet, bah on en a besoin ou pas. Typiquement, moi j'ai appris à conduire au fin fond de la campagne, donc évidemment on allait en ville de temps en temps. Mais le réflexe de l'angle mort à droite, il m'est inconnu. Parce que à la campagne, ce réflexe il est censé être plutôt pour éviter d'écraser des cyclistes. Sauf que à la campagne, des fois on est en ligne droite sur des kilomètres et des kilomètres et il y a absolument zéro cycliste. Ça c'est juste un exemple. Je dis tout ça parce que pendant que je m'entraînais à passer le code, du coup, ma monitrice me répétait souvent une phrase et qui m'a marqué parce que je m'en souviens encore 6 ans après. Elle nous disait que pour le code de la route, la première intuition, en général, c'était la bonne. Il y a des gens qui estiment qu'ils sont incapables de prendre une décision ou de faire un choix. Moi, c'est pas que je suis incapable de prendre une décision ou de faire un choix, c'est que je suis incapable de le faire rapidement. Et que du coup, ma vie est pleine de dilemmes au quotidien. Est-ce que je fais les courses aujourd'hui ou est-ce que je les ferai demain? Est-ce que j'attaque ma dissertation aujourd'hui ou est-ce que je l'attaque demain? Ce ne sont que des choses comme ça. Est-ce qu'il vaut mieux que je prenne ma douche à 19h30 ou à 19h45? Et c'est pas que je suis incapable de donner une réponse à ces dilemmes. C'est que ça me demande énormément de temps, d'énergie, et que ça procure des angoisses phénoménales. Alors des fois, pour me simplifier la vie un peu, je repense à cette phrase, je me dis que je vais aller vers ma première intuition. Pour des choses assez simples, typiquement la douche, bon, de toute façon, il n'y a pas de très gros impact. Mais il y a des choses pour lesquelles c'est plus compliqué. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai tendance à vouloir généralement comprendre les choses. Et donc je passe énormément de temps à essayer, parce que j'y arrive pas toujours, de rationaliser. Et là où ça devient drôle, c'est que des fois, à force de rationaliser, je me rends compte que ça devient absurde. Je me perds tellement dans mes questions et mes raisonnements que je me prends la tête pour des trucs relativement anodin. J'ai un vague souvenir d'un podcast, je crois, que j'ai dû écouter il n'y a pas très longtemps, dans lequel je ne sais plus qui, expliquait que le monde n'est pas binaire, il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, et que c'est pour ça que les plus grandes œuvres de fiction mettaient souvent en place un monde binaire. Je me souviens que la personne en question prenait l'exemple dans Star Wars. Dark Vador, c'est le méchant, et c'est facile parce qu'il est tout habillé en noir et il a un sabre laser rouge. C'est le méchant, il n'y a pas de doute là-dessus, tout le monde le comprend, point barre. Dans Le Seigneur des Anneaux, Sauron, il est habillé tout en noir, c'est le méchant, point barre. Dans Harry Potter, Voldemort, il est habillé tout en noir, c'est le méchant, point barre. Évidemment, c'est un peu plus complexe que ça, parce que si c'était aussi simple, ces œuvres n'auraient pas le succès qu'on leur connaît. Et qu'on les aime ou pas, le postulat c'était que le monde, la réalité n'est pas binaire. Et comme on peut potentiellement se prendre la tête, parce que c'est très compliqué de comprendre un monde comme ça, et bien on a des œuvres de fiction qui nous simplifient la tâche. Et qui nous permettent de l'oublier un petit peu. Un autre truc que j'ai découvert au lycée et auquel je pense tous les jours, c'est la question de la définition et du contexte. En première, on a commencé à faire des vrais sujets de composition ou de dissertation en histoire géo. Et probablement que vous aussi, vous avez eu ce moment où quand on nous a expliqué la méthode de la dissertation, on nous a dit la première chose à faire, c'est définir les termes importants du sujet. Et moi j'ai trouvé ça complètement absurde. C'est-à-dire que quand on me donne la guerre de 1939 à 1945, qu'est-ce qu'il y a à définir là-dedans? Une guerre, c'est une guerre. 1939, c'est 1939. 1945, c'est 1945. Et il m'a fallu vraiment du temps pour comprendre l'importance de définir ce que c'est qu'une guerre, de définir 1939 et de définir 1945, parce qu'une définition, c'est là que j'ai compris qu'une définition dépendait toujours d'un contexte. Et c'est quelque chose dont je me sers au quotidien. Dans mes études, maintenant. Mes études maintenant, le volume le plus important, ce qu'on nous apprend à faire, c'est chercher des informations. Sur tous les sujets que vous voulez, de toutes les natures que vous voulez, c'est vraiment le truc, c'est à la fois très général et très précis. Nous, on est censé être des pros pour chercher une information et tant qu'à faire, la trouver. Et l'année dernière, quand j'ai commencé les cours, on nous a expliqué le principe de la polysémie. Et la polysémie, c'est quelque chose qui rend très difficile notre travail. Un terme polysémique, c'est un mot qui peut avoir plusieurs sens. Et c'est maintenant que je cherche un exemple où j'en trouve pas. Si on prend l'exemple de nature, la nature, ça peut être le paysage, ça peut être synonyme d'original. Il y a plein de synonymes et de sens possibles au mot nature. Et donc nous, comme on cherche de l'information, on passe par des moteurs de recherche. Passe notre temps à interroger en fait des sources, des bases de données, des sites web, des réseaux sociaux, des forums, des tout ce que vous voulez. Et donc le terme polysémique, c'est un handicap, on va dire, pour nous, puisque si je demande à Google, bah justement guerre, et que je cherche des informations sur la guerre de 1939-1945, si ça se trouve, Google ne va me chercher que ne va me donner que des pages qui parlent de la guerre du Vietnam. Donc cette question de la définition et du contexte est omniprésente dans mes études, mais elle est dans la vie en général. Puisque pour revenir à mes dilemmes permanents, il y a notamment cette question de définition. Typiquement, en ce moment, si vous consultez régulièrement ou pas des développements de théories, des concepts, des arguments sur ce qui touche au féminisme, il y a quelque chose dont on parle pas mal en ce moment qui sont les masculinités. Notamment la question de comment on intègre les ou la masculinité et les ou la féminité au cours de notre éducation. Et si on va un peu plus loin là-dedans et qu'on se pose la question de l'éducation par rapport aux enfants par des personnes plutôt féministes, il y a un truc qui revient assez souvent, c'est que les petits garçons, dans la plupart des cas, on ne leur apprend pas à identifier et exprimer leurs émotions. Et pour schématiser très grossièrement, on apprend aux petits garçons qui sont soit contents, soit pas contents, et s'ils sont pas contents, ils sont en colère et c'est tout. Pour creuser ça, je vous recommande le podcast qui s'appelle Les couilles sur la table, c'est là-bas que j'en ai entendu parler. Où il y a notamment eu un épisode d'un anthropologue. Enfin, il y a eu un épisode avec un invité, un anthropologue, qui avait justement étudié cette question du développement et de l'acquisition. Ah non, sa question c'était sur le sentiment amoureux chez les enfants. Et donc il expliquait que, évidemment, c'est triste à dire, mais évidemment, les petites filles, on leur apprenait très rapidement ce que c'était que l'amour, ou en tout cas, elles le comprenaient très vite, elles l'intégraient, et elles en faisaient plus ou moins un objectif de vie, et que les petits garçons, ils le comprenaient aussi, mais que par contre, ils l'excluaient justement en opposition aux filles. Tout ça me travaille beaucoup, notamment parce que je me rends compte que j'ai ce souci d'identifier et de nommer ce que je ressens. Tout à l'heure, je disais que les dilemmes me procuraient beaucoup d'angoisse. Mais si je voulais être exact, je dirais que les dilemmes me procurent une sensation que j'appelle l'angoisse. Mais je ne sais pas quelle est la définition d'angoisse, et donc je ne sais pas si le terme est adapté à ce que je ressens. Et ça, c'est un questionnement qui est permanent chez moi. Donc j'ai au quotidien ce que j'appelle des angoisses, mais je ne sais pas si c'est des angoisses, et finalement, j'angoisse à propos même du fait que peut-être que ce que j'appelle l'angoisse n'est pas de l'angoisse. Là, j'en viens à mon absurdité de tout le temps vouloir tout rationaliser. Cette boucle est incroyable, cette spirale de l'enfer. Pour prendre un exemple concret, il y a quelques jours, je suis allé faire un bilan psychiatrique qui était prévu depuis 1 mois et demi. Et ce rendez-vous m'angoissait justement beaucoup. Parce que je savais que le rendez-vous ne serait pas assez long pour que je puisse dire tout ce qui me questionne en permanence et me pourrit un peu la vie. Et donc j'étais très angoissé par le fait de pouvoir mettre les mots sur ce que je ressens, pour pouvoir l'expliquer au psychiatre le plus fidèlement possible, pour que lui ensuite il puisse me donner une solution. Et si possible, la solution la plus adaptée. Évidemment, j'ai pas réussi. Et donc, j'ai pas de solution. De la même manière que c'est pas quelque chose qui concerne seulement le psychiatre, mais tous mes contacts sociaux. Ce que j'ai expliqué au psychiatre, c'est que je n'aime pas parler pour ne rien dire. Je n'aime pas parler si ce que je dis n'apporte rien à personne. Que ce soit du divertissement, que ce soit de l'information, que ce soit une quelconque forme d'enrichissement personnel, peu importe. Si ce que j'exprime n'est pas réceptionné de la manière dont je souhaitais que ce soit réceptionné, c'est que je me suis mal exprimé. C'est la raison pour laquelle quand je suis dans un quiproquo avec quelqu'un, alors si c'est une personne lambda, j'aurai certainement moins de patience, mais si je suis dans un quiproquo avec un ami ou une relation proche et qui est établie depuis un certain temps et que j'ai envie de maintenir, quand je suis dans un quiproquo avec quelqu'un, la première chose que je dis, ce n'est pas tu as mal compris. Parce que c'est un petit peu remettre en cause les capacités intellectuelles de la personne en face. La première chose que je dis, c'est je me suis mal exprimé. J'estime, à titre purement personnel, que si je dis quelque chose à quelqu'un et que la personne en face se sent agressée, se sent blessée, ça peut m'arriver de le faire volontairement, mais c'est quand même très rare, mais dans la plupart des cas, j'estime que c'est parce que je me suis mal exprimé, que je n'ai pas bien développé l'idée que je voulais développer, que je n'ai pas bien formulé le message que je voulais faire passer. Et ça peut notamment devenir très compliqué quand je dialogue avec quelqu'un et que le sujet de la conversation est une relation sociale. Et c'est pour ça typiquement que... Alors heureusement que dans mes conversations de tous les jours, je ne passe pas mon temps à redéfinir les mots que j'emploie et à les contextualiser, sinon ça serait infernal. Mais si j'ai un débat avec quelqu'un et que je sens que le débat n'avance pas et qu'on ne se comprend pas, je vais dire à un moment ok, pause. La définition que je donne à ce terme, c'est celle-ci. Est-ce qu'on a la même, oui ou non? Et si la personne me répond non, il n'y a pas de problème, je lui demande quelle est sa définition et après on voit quel est le terme qui nous convient le mieux. Mais quand on est dans une situation de débat, de remise en question, d'interrogation, je pense que c'est important que toutes les personnes qui soient concernées se mettent d'accord sur les définitions. Même. De toute façon, je pense qu'une définition exacte de quelque chose n'existe pas. Et que même si on prend le meilleur dictionnaire du monde, déjà il y aura des tas et des tas de termes qui auront plusieurs sens. Et les quelques termes qui n'auront qu'une définition, on pourra les remettre en question. Je sais pas si des gens en sciences du langage travaillent là-dessus. Je sais pas s'il y a des gens qui se posent la question de qu'est-ce qu'une définition et qu'est-ce qui fait qu'elle est légitime ou pas. Plus quotidienne. Dans mes études, j'ai un projet tutoré à faire. Et ça fait maintenant un an qu'avec mon groupe de projets tutorés, on travaille sur un sujet. Et dans ce groupe de travail, moi je suis chef de projet. Et typiquement l'année dernière, on a eu un moment où il a fallu remettre les choses au clair sur la définition des rôles, des missions du chef de projet. Parce que visiblement, j'avais pas la même définition qu'une bonne partie du reste du groupe et ça nous ralentissait pas mal dans notre avancement. Moi, j'estimais qu'en tant que chef de projet, dans notre contexte, j'étais surtout là pour être le médiateur entre notre tutrice et le reste du groupe. Donc, je faisais remonter les informations du groupe vers la tutrice et je faisais descendre les informations de la tutrice vers le groupe. Mais c'était à peu près ma seule mission et responsabilité, on va dire, en plus par rapport aux autres membres du groupe. Là où ça coinçait, c'était qu'une autre partie du groupe estimait qu'en tant que chef de projet, et ben moi j'étais là pour donner les ordres et eux ils étaient là pour exécuter. Et au bout d'un moment, ça a coincé. Et au bout d'un moment, je suis allé les voir et je leur ai dit qu'on avait un souci sur la définition de chef de projet. Et que moi, j'étais pas chef de projet pour donner des ordres en attendant qu'eux exécutent. Et je leur ai rappelé que on avait tous choisi ce sujet parce qu'il nous stimulait, qu'il nous intéressait. Et que eux avaient aussi totalement le droit, et même que je les encourageais vivement à prendre des initiatives et pas à rester passifs et attendre que je donne des ordres. Parce qu'au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu marre qu'on vienne tout le temps me demander ce qui devait faire quoi, pour quand, et qu'ensuite on me demande de valider les choses. Et je leur ai expliqué que s'ils avaient travaillé sur quelque chose et qu'ils voulaient savoir si c'était validé ou non, ils avaient qu'à se mettre en situation, à se demander si ils rendent ce travail à nos tutrices, est-ce qu'elle nous met 20 ou pas? Et si elle nous met pas 20, eh ben c'est qu'il y a encore du travail à fournir. Parce qu'en fait, moi j'ai passé un an à organiser des réunions, à faire des plannings, à distribuer les tâches. Et j'ai pas travaillé concrètement sur le projet. Et comme eux exécutaient seulement ce que je leur disais de faire, ben finalement ils connaissaient que partiellement l'état d'avancement de la chose. Et moi je le connaissais pas réellement non plus parce que j'avais pas le temps de valider tout ce qu'ils faisaient. Donc c'était quelques exemples de mes dilemmes quotidiens sur la question de la définition et du contexte. Et sur le fait que parfois pour me simplifier la vie, je repense à ma formatrice d'auto-école et j'essaie de me fier à l'intuition. De toute façon, il y a rarement de bons ou de mauvais choix. Parce que c'est souvent des questions où on ne peut pas anticiper toutes les conséquences. Il y a aussi le risque de tirer des conséquences trop rapides. Et comme je suis plutôt de nature pessimiste et angoissé, quand je pèse le pour et le contre, quand je dois faire un choix, j'ai tendance à prendre celui dans lequel je me sentirais le plus en sécurité, ou plutôt celui dans lequel je me sentirais le moins en danger. Prenez soin de vous.